in the humble ark.
Salut à toutes et à tous, je suis avec l'artiste Manjoul. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, tout va très bien, merci de l'accueil.
Donc vous êtes originaire de Paris, habité aujourd'hui au Mali, à Bamako plus précisément. C'est votre père qui vous initie tout petit à la musique. Donc multi-instrumentiste et producteur, vous mettez en valeur la musique mandingue à travers des sonorités reggae dub. Vous avez notamment travaillé avec Toumani Diabaté, Tikanja Fakoli, Takana Zion, Natty Jean et bien d'autres. Votre studio se nomme le Humble Ark en référence à l'ancien studio Black Art de Lee Scratch Perry. Après deux albums dub Toumali, intitulé Faso Kanou en 2005 et Jatigia en 2008. Vous avez sorti fin mai le troisième opus de Dub Toumali nommé Duba sur le label Baco Records. Donc première question, vous avez beaucoup voyagé, que ce soit à Mayotte, dans l'océan Indien, la Réunion, le Mali. Vos différents voyages ont-ils joué un rôle dans votre musique ?
Eh oui, évidemment, la musique que je fais au-delà des réalisations pour d'autres artistes, mais même dans celles-là, elles sont toutes empreintes de témoignages de vie. Du coup, effectivement, chaque étape de ma vie a été constructive aussi bien pour moi que pour la musique que je fais.
On peut dire que ces étapes de voyage-là qui vous ont conduit à trouver l'idée du concept Dub Toumali.
Eh ben Dub Toumali, oui. Alors, de toute façon, c'est toujours une suite d'un long processus, mais le projet Dub Toumali, c'était vraiment à partir du moment où pour moi c'était le point de chute et de base de la famille. C'était une manière de témoigner en musique de la rencontre sociale, culturelle et spirituelle à travers mon voyage du reggae et de la musique traditionnelle africaine. Donc du coup, c'est à la fois un regard ou une écoute vers l'Afrique que ça évoque. Et les trois saisons, elles sont correspondantes à trois saisons de vie là-bas. Et les albums se sont faits sur plusieurs années à chaque fois.
Donc comme vous le dites, il y a trois saisons, Faso Kanou, Jatigia et Duba. Pouvez-vous nous dire ce que signifient ces noms ?
Alors Faso Kanou, ça exprime l'amour du pays, l'amour du Mali, l'amour de... Alors ça peut être, on peut avoir le Faso Kanou, c'est une émotion, c'est une sensation. On peut le ressentir pour tout pays du monde à partir du moment où on s'y sent bien. Donc le Faso Kanou, littéralement, c'est l'amour du pays.
D'accord.
Ensuite, Jatigia, c'est ce qui exprime l'accueil. C'est une valeur en Afrique de l'Ouest. Le Jatigia, c'est une valeur et c'est l'accueil, l'hospitalité. Alors celui qui accueille, c'est le Jatigi. Et le fait d'accueillir et l'hospitalité de manière générale, c'est le Jatigia. Et elle est tellement puissante au Mali que j'ai voulu le témoigner à travers cet album-là. Et ensuite, c'était aussi à un moment donné une manière pour moi de faire le contraste. Quand beaucoup de gens ont peur et ferment leur volet, en réalité, les solutions se trouvent dans l'accueil et l'hospitalité et pas de se refermer sur soi.
Ouais, c'est une ouverture vers le monde, quoi.
C'est ça. Tout en étant chez soi, on peut être ouvert sur le monde, juste à travers ça, l'hospitalité. Ensuite, le dernier, c'est Duba. Et là, ça exprime, littéralement, c'est la cour, mais au sens plus large, ça a une signification familiale, puisque le Duba, en général, c'est la cour de la grande famille, où
D'accord.
tous les membres de la famille se retrouvent à un moment donné, et tous les membres de la famille viennent de toutes les façons. Alors, c'est aussi la cour où tout le monde se retrouve, et moi, c'est une manière d'exprimer aussi le fait que Dub Toumali, c'est pas seulement le travail de Manjoul, mais c'est le fruit de toutes les rencontres qui se sont produites dans la cour du studio, et donc dans le studio, et c'est ça, Dub Toumali, en réalité. Donc le troisième volume s'appelle comme ça, pour rappeler le fait que les hommes doivent travailler avec les hommes, et que c'est le fruit de ces échanges et de ces rencontres qui donnent des vrais témoignages.
Pour faire un parallèle avec la Jamaïque, est-ce que Duba, ça peut pas être aussi le yard jamaïcain ?
Complètement, je crois que le concept du yard jamaïcain, c'est un des aspects que le peuple a réussi à garder dans leur voyage malgré eux à l'époque. Et je pense que c'est un des héritages de l'Afrique qu'ils ont su préserver et dans lequel ils ont retrouvé justement une force. Et tout se crée dans la cour. Donc oui, je pense que ça a forcément un rapport de sens. Même si moi, je suis vraiment concentré sur le contexte malien de Duba, mais je pense que c'est typiquement la même chose. C'est l'héritage culturel de l'Afrique qu'on retrouve en Jamaïque.
Donc on a pu voir sur votre album qu'il y a beaucoup, beaucoup d'invités, d'artistes, que ce soit des chanteurs et des musiciens. Comment avez-vous choisi justement ces artistes ?
Justement, j'ai pas choisi. On dit souvent que la vie est une route pleine de signes et c'est une route aussi où on rencontre beaucoup d'événements et d'éléments. Et du coup, c'est vraiment un témoignage parce que pour les trois albums, c'est à chaque fois avec sincérité l'expression des rencontres qu'il y a eu dans ces périodes-là. Donc les artistes que tu retrouves vraiment omniprésents dans les trois, à savoir Ahmed Fofana, Assaba Dramé et Sungalo Diarra sont les trois autres piliers et sans qui Dubs Somali ne serait pas le même. Et les trois là sont présents sur les trois volumes. Après, les trois volumes sont trois saisons distinctes de plusieurs années. Du coup, elles ont été illustrées par plein d'albums qui ont été réalisés ou enregistrés au studio. Et du coup, à chaque fois, ça crée des nouvelles rencontres et des nouvelles inspirations. Si tu veux, c'est ça vraiment le repère qu'il faut avoir. C'est qu'il n'y a pas vraiment un plan défini qui je pense ou qui je veux. Non, c'est la vie, c'est la rencontre des lieux, du temps et des choses et des gens qui fait ce qu'on entend, si tu veux.
D'accord.
Donc, c'est au-dessus de moi. Moi, je capture l'inspiration et au moment présent, toutes les choses qui se présentent à moi, mais... Et c'est pas vraiment le fruit d'un calcul, c'est très innocent. C'est surtout plein de sens de vie, du sens humain.
Oui, des êtres humains qui enrichissent la vie des autres par un échange, c'est finalement, qui est la musique.
C'est ça, et qui peut être sous d'autres formes. Ça peut être tellement d'autres formes. Ça peut être tous les métiers que le monde connaît. Hein.
Mmh.
Et c'est une énergie, en fait. C'est un processus de travail. Ça se révèle là en musique, mais ça se révèle en sport, en architecture, en agriculture, en pêche. Ça peut se révéler dans tous les corps de métier, j'en suis persuadé, dans toutes les expressions humaines. D'ailleurs, à Mayotte, on dit « azina monadam », c'est-à-dire « travailler avec les hommes ». Il faut les gens travailler ensemble, c'est ça la clé.
D'accord, ça résume bien assez le projet de Dubs Somali en tout cas. Quelles sont les principales difficultés que l'on peut rencontrer quand on travaille avec autant d'artistes et comment s'est passé le travail en studio plus généralement?
Écoute, je crois que, encore une fois, la musique c'est vraiment à l'image de la vie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de facilité ou de difficulté. Il y a des événements plus ou moins simples à faire face, plus ou moins heureux, plus ou moins agréables. Mais je crois que quand il y a du sens et que tout ça est guidé par un sens de réalité, c'est-à-dire au-delà des cerveaux et de ce qu'on peut imaginer, eh ben, je pense que les choses se passent de toutes les façons à l'échelle de l'histoire. Rien ne s'est seulement bien passé ou seulement mal passé. C'est une suite d'événements. Ce qui est sûr, c'est qu'avec tout ça, j'ai encore toujours plus envie de rencontrer et de travailler avec des gens. Je pense que dans la rencontre, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Toujours.
Parler de rencontres, il y en a une très grande avec le groupe d'Anakil. Comment s'est faite la connexion avec ce groupe?
Et ben voilà, groupe d'Anakil, sont venus enregistrer, donc en 2011, ils sont venus, après avoir fait un séjour à la Jamaïque, ils sont venus au Mali pour terminer l'album Écho du Temps. Donc, quasiment été fait dans la totalité au Mali. Du coup, ils sont venus 2 mois, on les a logés dans une case pas très loin de chez nous, dans le quartier Bakoji-Koroni. Et ils étaient vraiment ouverts avec tout ce qui se passait, nous, dans le studio, autour du studio, voilà, dans la cour. Et de cette rencontre-là, ils ont rencontré qui travaillait avec moi dans le studio, dont Nati Jean. Donc, il y a eu cette adoption, entre guillemets, cet élan avec leur amitié qui a donné ensuite ce que l'on a vu, c'est-à-dire le rapprochement de Nati Jean et de Nakil. Et puis, moi, ensuite, j'ai mixé des albums à eux en dub. Alors, je venais donc régulièrement. Et cette année, ces deux dernières années, j'étais très, très présent avec eux sur scène pour représenter ce rôle-là au niveau des percussions et des chœurs. Et jusqu'à présent, on continue à travailler ensemble. Et la suite des choses, effectivement, vu qu'à leur retour du Mali, certains d'entre eux ont monté Bako Records. Et voilà, l'histoire continue, puisque aujourd'hui, c'est eux qui mettent en valeur l'histoire qu'ils ont rencontrée en 2011. Ils la mettent en valeur et en lumière en permettant de faire sortir les 3 volumes de Dubs Somali. Les 2 premiers sont en réédition et le 3e est tout nouveau.
Oui, c'est vrai. Vous venez de le dire aussi, vous avez fait en sorte que Nati Jean et Balik se rencontrent. Est-ce que vous savez d'avance que ça allait aussi bien marcher, cette connexion entre ces deux artistes?
Non, je pense que c'est vraiment la volonté du Très-Haut qu'ils se soient comme ça entendus entre eux. Nous, on n'avait pas du tout de plan. Moi, si tu veux, quand ils sont venus au studio, ils m'ont demandé de leur confier les artistes que je pensais importants. Du coup, tous les artistes avec qui je travaillais, et notamment les choristes et instrumentistes traditionnels et chanteurs, et Natty Jean, je le faisais travailler très régulièrement sur d'autres projets que les siens en tant que choriste, si tu veux. Ma vision à moi a été de choisir Natty Jean pour faire partie de ceux qui feraient les chœurs sur cet album. Mais je n'avais pas du tout prévu, ni imaginé, ni calculé que Natty Jean ferait des featuring sur cet album et qu'ils s'entendraient bien ensemble avec Balik. Bah, ça a été le fruit d'un processus totalement naturel, je m'en rappelle encore. Au bout d'un mois, je suis parti les chercher dans leur maison, pas très loin de mon studio. Et en marchant dans le carré, Mathieu Dacieux et Balik m'ont parlé de cette entente vraiment qu'ils avaient avec Natty, parce que Natty vraiment a été d'un grand accueil pour eux. Il était très souvent avec eux, quasiment tous les jours. Et du coup, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mais c'était pas du tout calculé. C'est vraiment un processus naturel. Et comme je te dis, parmi toutes les choses que j'ai pu faire, et Dieu sait s'il y a une quantité incroyable de choses qui ont été faites musicalement depuis ces dernières 25 ans, à mon niveau, et ben, ce que je peux dire, c'est que les choses qui durent et qui restent sont les choses qui ont du sens et qui sont le fruit d'un processus naturel. Tout ce qui est fruit d'un calcul, d'une architecture ou d'une stratégie humaine prend toujours une forme différente.
Effectivement, vous avez travaillé en tant que producteur sur différents groupes et projets. Pour repartir sur autre chose, la philosophie Rasta prône entre autres la réapatriation en terre africaine. Était-ce vers ça que vous vous tendiez une fois que vous étiez installé au Mali ?
Je suis né dans le 18e arrondissement à Barbès, à Paris, qui est déjà, moi je suis né dans les années 70, et c'était déjà un quartier très très multiethnique, cosmopolite. Et c'est vrai que l'Afrique m'appelait depuis tôt. J'ai vu l'Afrique, puisque parmi mes camarades, mes voisins, mes amis, les vibes qu'il y avait dans le quartier me faisait sentir et entendre vers là-bas. Et c'est vraiment le reggae qui m'a fait regarder vers l'Afrique. Et ensuite, Marcus Garvey. D'abord, la musique, vraiment reggae, ce que faisaient les Jamaïcains. Et c'est d'ailleurs curieux, parce qu'à l'époque, eux le faisaient en regardant l'Afrique. Et moi et beaucoup de ma génération, ça nous a fait vraiment regarder vers l'Afrique, le reggae, plus que vers la Jamaïque, a priori. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a attiré, à la fois dans la musique, mais aussi dans l'Afrique. Et comme tout enfant de Barbès, à un moment donné, j'ai été amené aussi à rencontrer quelqu'un dans ma vie. Et cette personne a été originaire du Mali. Donc on est parti dans l'océan Indien, à Mayotte, la Réunion. Tout ça, c'était aussi un processus d'initiation, de vie, de famille. Mais le moment où on est parti au Mali, c'était une réalité de rapatriation familiale, bien sûr liée à notre vision Rasta, mais prédominamment lié à notre famille, que ma femme étant d'origine du Mali, notre premier enfant était né, et c'était très important pour nous que lui et nous refaisions la connexion avec les racines familiales qui se trouvent au Mali. Et c'est là où on a quitté la Réunion pour aller au Mali, et qu'on a décidé d'y rester et d'implanter notre base familiale pour les futures générations.
D'accord. Et du coup, pourquoi avoir choisi le style dub pour véhiculer votre spiritualité, votre message ?
Alors, c'est une bonne question et je vais t'y répondre avec énormément de sincérité. Quand j'ai écouté le reggae, on découvrait, c'est vrai, des albums de Naïe Bingui, des albums de dub, parce que c'était des vinyles, et puis voilà, on découvrait comme ça, au fruit du hasard de nos recherches, dans des magasins qui n'étaient pas du tout spécialisés reggae. Mais, évidemment, on entendait le dub, mais sans l'avoir analysé, si tu veux. Ça faisait partie inconsciemment de la texture du reggae, si tu veux. Maintenant, on a commencé à jouer la musique ensemble, ça a commencé avec les tambours, et puis on a voulu s'enregistrer et récupérer un peu de matériel à droite à gauche. Ça, c'était au tout début, vraiment les prémices que je te parle.
D'accord.
Alors, je devais avoir 15-16 ans, et on n'était pas des bons musiciens, à vrai dire, on apprenait. Et du coup, y avait des problèmes de stabilité quand on voulait enregistrer à basse batterie, y avait des erreurs flagrantes. Et les percussions, et le fait d'envoyer des échos et des effets, et de couper certains instruments dans les breaks ou dans certaines parties, ça me permettait à moi de corriger la musique à cette époque-là où il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, ça tournait sur la bande et il fallait en temps réel couper ce qui n'allait pas, envoyer un écho et puis reprendre la mesure suivante pour que, tu vois ce que je veux dire, si le break de batterie n'était pas bon, on le mutait et puis on faisait partir les échos et puis on le faisait revenir ensuite. Et ça, finalement, pour te dire franchement, le dub, on y est arrivé parce qu'au départ, c'était pour corriger notre musique. Et puis après, Mais il y a eu une définition au fur et à mesure, en écoutant, en observant. Et du coup, ben voilà, c'est devenu vraiment quelque chose que moi j'adorais, quoi. L'effet que procurait le dub, c'est-à-dire, en quelque sorte, une science de faire venir et sortir les éléments différemment que sur la version originale, en mettant en avant le basse-batterie et des fois en déstructurant complètement le morceau. Et avec le temps, je me suis rendu compte que si cette musique a tellement d'importance au final, parce que malgré l'évolution des machines et tout, le dub continue à évoluer, eh ben je me dis que c'est parce que c'est à l'image de la vie, c'est depuis la conception jusqu'à la mort, on ne fait que entrer et sortir, entrer et sortir, entrer et sortir. Et le dub, c'est en quelque sorte la science de faire rentrer et sortir les événements musicaux enregistrés.
D'accord.
Voilà pourquoi je suis très attaché au dub et que tout ce que j'enregistre, même quand c'est pas du reggae, même quand on me le demande pas, je fais toujours au moins une version dub et en général plusieurs versions dub. Je me suis toujours battu pour ça, pour faire sortir toujours les versions dub ou au moins quelques versions dub en même temps que les albums des artistes. C'est aussi une manière, si tu veux, pour finir, avec le titre et la musique et le refrain qui revient et qui s'en va. Après, chacun peut faire son propre développement en écoutant la musique, en fermant les yeux, en faisant bouger son corps. Il peut faire son propre développement intérieur par rapport à sa propre vie.
Oui, il peut
attraper les énergies qu'il y a dans la musique.
Bien sûr.
Pour évoluer et progresser avec lui-même dans un certain raisonnement, tu vois. Et ça aussi, c'est l'émotion de la musique. C'est pas seulement le plaisir que cette vibration procure, mais c'est aussi l'énergie que cette vibration nous amène, qui nous permet de nous d'aller chercher aux confins de nous-mêmes, aux confins de l'histoire, aux confins de l'homme, de la terre, géographiquement. Ça permet vraiment de faire un travail à l'intérieur, quoi, ces fréquences là.
Aussi sur votre projet. Pourquoi ne pas avoir en plus développé votre carrière dans le chant ?
Alors, j'ai toujours, depuis le début, d'une manière assez régulière, mais quand même sporadique, fait des chansons. J'aime chanter. J'aime chanter comme j'aime jouer de la cloche jusqu'au chant. J'aime la musique. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu à un moment donné la capacité et surtout la passion d'avoir envie d'apprendre, apprendre la musique, apprendre les instruments. Et j'ai toujours été entouré de beaucoup de chanteurs et chanteuses qui n'avaient pas forcément cette ambition ou cette passion-là, si tu veux. Du coup, moi, j'aime être utile, j'aime être au service de la cause dans laquelle je me trouve au moment donné. Et du coup, ben, j'ai toujours mis en avant les instruments parce que je les aime. Et le studio, en tant qu'ingénieur du son, c'était un moyen. C'est un moyen qu'il fallait que je me donne au fur et à mesure du temps pour arriver à trouver vraiment la couleur et surtout arriver à enregistrer et à produire parce que c'est très difficile quand à l'époque déjà et même aujourd'hui c'est très difficile de produire et d'enregistrer quand la seule vraie motivation c'est de véhiculer une vibration dans la dimension sonore qui crée les émotions qu'elle crée si tu veux dans la musique. Je l'ai toujours fait pour ça, ça n'a jamais été un plan de carrière, j'ai pas de carrière et du coup ben c'est vraiment une réalité de vie qui fait que pour pouvoir perpétuer cette vibration-là, j'ai besoin d'être sincère avec.
Il y a un titre chanté en français, Les Hommes de Demain. Pourquoi qu'un seul titre
Alors, c'est pas vraiment un choix permanent de chanter dans une langue ou une autre.
D'accord.
Et souvent d'ailleurs, je le dis, c'est encore une fois très instantané. Quand j'ai un morceau qui me vient ou un thème que j'ai envie d'évoquer ou de témoigner, ça va dépendre de à qui je pense. Quand je suis en train de créer ça. Et si je pense au Mali, ben je vais les créer dans une langue malienne, c'est-à-dire Bambara ou Soninké. Si je pense à la famille du côté de l'océan Indien, je vais m'exprimer en créole. Et si j'ai envie que tout le monde comprenne, ça va être l'anglais, tu vois.
D'accord,
et si je pense à la France en particulier, je vais penser au français. Mais c'est pas vraiment un choix, tu vois.
C'est
lié Sophie, à mon inspiration, si tu veux, et à qui je pense à ce moment-là. Et Les Hommes de Demain, c'est chanté par mes enfants. Et ça vient d'une réalité exprimée par un grand personnage qui s'appelait Marcus Garvey et qui disait ben voilà, que les enfants d'aujourd'hui, c'est les hommes de demain. Et c'était une manière de prendre en évidence et en importance l'éducation qu'on transmet aux enfants et aussi ce qu'on leur transmet comme habitude culinaire, comme habitude de vie, comme réflexe d'hygiène et de manière de se comporter avec les autres. Ça, ça commence depuis le début, en réalité. Et c'est pas à l'école, vraiment, qu'ils apprennent ça. C'est un héritage que les parents, l'entourage, toutes les grandes personnes doivent transmettre à tous les enfants, en réalité. Et du coup, ben là, c'est mes enfants qui s'expriment, et ça remonte déjà à 7-8 ans. Et du coup, le fait de le chanter en français, c'était déjà une manière de pouvoir le traduire, cette idée de Marcus Garvey, en partie parce que beaucoup de cultures l'ont témoigné. Là, je pensais à lui, mais quand les Indiens d'Amérique disaient que la terre est prêtée par les enfants, c'était le même esprit. Mais bon, voilà, c'est une manière de donner la parole aux enfants pour leur faire exprimer ça. Et en français, ben, c'était justement leur langue. C'est une de leurs deux langues principales à mes enfants. Alors il fallait qu'ils s'expriment dans une de celles-là. C'était plus naturel pour eux, tu vois. C'était plus ressenti pour eux.
D'accord, je vois. Et donc juste pour rappeler aux auditeurs, Marcus Garvey, c'est un prophète du mouvement Rasta qui a notamment promu l'arrivée de Haile Selassie, empereur d'Éthiopie. Voilà, il a dit au Rasta, allez voir vers l'Afrique, un grand empereur viendra et ce sera le représentant de Dieu sur Terre.
Oui, tout à fait. C'est le résumé qu'on peut en faire d'une manière générale, tout à fait. C'est ça. Ce qui est très important, c'est qu'il a voulu contribuer à faire prendre en compte le peuple issu de l'Afrique. Et il était important qu'il regarde vers l'Afrique et qu'il s'inspire de l'Afrique à un moment donné où l'inspiration était surtout du monde occidental, si tu veux.
Est-ce qu'on peut espérer un 4e saison de Dub to Mali?
Alors, ce qu'on peut espérer, c'est d'autres albums musicaux, parce que je suis déjà en train de travailler sur d'autres projets musicaux qui sont dans la même démarche, mais qui sont encore une fois des témoignages de vie. Du coup, là, depuis 2 ans, je suis beaucoup basé en Europe par rapport au fait que mes enfants sont tous là, à l'université et au lycée en Europe, et que du coup, mais ça ouvre ou réouvre des collaborations avec des artistes ici, et soit que j'ai rencontré en Afrique, soit que je rencontre ici. Et du coup, ça sera d'autres témoignages de vie. Et ça sera peut-être pas Dub to Mali saison 4, mais il y aura d'autres volumes de ça. Et il est clair que si Dieu me donne longue vie, et peut-être qu'il y aura un 4e volume de Dub to Mali. Je le souhaite pour pouvoir exprimer des prochaines années dans un Mali qui retrouve une stabilité, qui retrouve une liberté que pour l'instant est largement atteinte, puisque la grande guerre géopolitique pour trouver de nouveaux puits de richesse qui se trouvent sous les sols, et bien là, finalement, il faut se dire que la reconduction du contrat entre la Areva et le Niger, l'assassinat de Kadhafi et la découverte de autant de pétrole dans le nord du Mali qu'il n'y peut y en avoir au Qatar, et de gaz, etc., etc., n'est pas prêt de redonner au Mali la paix qu'on a connue à un certain moment. Mais le Mali est grand, le Mali est fort, et le peuple du Mali a encore des héritages de la charte. Malgré tout ça, et toutes les volontés de déstabiliser le pays et de monter les uns contre les autres, j'ai grand espoir que les choses aillent mieux bientôt, et j'ai grand espoir donc
que la saison 4
de Dub to Mali pourra en témoigner.
D'accord, il y a des grands artistes qui essaient de combattre ça, notamment Tikenja Fakoli, qui est beaucoup attaché au Mali, par exemple.
Oui, bien sûr, le grand frère Tikenja, avec qui je travaille beaucoup depuis ces 15 dernières années, même presque 20 maintenant, et effectivement, lui, il est très engagé, j'irais même politiquement, ce que moi je me garde de faire pour plein de raisons qui pourraient se comprendre, mais on est vraiment avec lui dans ce combat pour que tout le monde se sente concerné par ce qu'il se passe, que ça arrête de se passer au-dessus de nous sans qu'on n'y comprenne rien. Et c'est vraiment important que les gens qui ont un pouvoir avec le peuple, une présence avec le peuple, puissent essayer d'apporter leur vision dans tout ça.
Avec quel titre voulez-vous que l'on termine l'interview et pourquoi ce choix?
Écoute, je crois que ça me plairait que tu diffuses Timbuktu.
Ok, y a pas de soucis.
En hommage à cette grande ville qui a connu les premières universités dans le monde, bien avant l'Occident, et cette grande ville qui était le centre de voyage des gens du monde entier pour des choses qui étaient la sagesse, le savoir, le sel, l'architecture. Et aujourd'hui, c'est la drogue, les armes, le pétrole, les conflits politiques. C'est ça qui a tout amené dans cette grande ville, et que tout le monde prie pour la ville de Timbuktu, et qui est vraiment, on souhaite que tout aille mieux un jour.
J'invite les éditeurs, bien sûr, à aller checker les réseaux sociaux de Manjoul et aller acheter et écouter surtout l'album Dub to Mali Douba, saison 3 de Manjoul. On retrouve vraiment une ambiance, une immersion dans le Mali, dans la musique malienne. Donc j'ai écouté plusieurs fois, donc c'est vraiment un bon album. Merci Manjoul d'avoir accepté l'interview. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Pareillement, merci beaucoup mon frère, et bien de choses à tout le monde.